L'année entrée, le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes comme tous les lundis à 18h30. Et notre but, il est toujours le même, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Et aujourd'hui, je suis doublement fière. Je suis toujours très très fière de mes invités. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement fière de la variété de ce qu'on va pouvoir vous proposer. Donc vraiment, aucune excuse, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il pleuve. On prend son parapluie et puis on sort de chez soi. D'habitude, dans cette émission, on a beaucoup de théâtre et on aura encore beaucoup de théâtre. Et pas des moindres. Donc, Nathalie Fleur, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, alors, multicasquette, hein, puisque directrice du TTO, donc autrice de cette pièce, c'est ça ?
Co-autrice. Petite co-autrice. La grande autrice, c'est Marie-Paul Pumes, mais je l'ai accompagnée.
Voilà, et actrice ?
Et actrice.
Petite actrice, non.
Là,
c'est actrice. Donc, c'est de cette pièce chez Colette, évidemment, qui va se jouer au TTO à partir du 22 février. À côté de toi, on a, pour la première fois pour moi, donc Gilles Ledur, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Flaget, et qui vient nous parler des Piano Days, de la musique. Je ne sais pas si Gilles, vous êtes pianiste.
Oui.
Ah.
Je l'étais.
D'accord. Bon.
Je reconnais un piano.
C'est ça, et un bon pianiste. Mais c'est intéressant, c'est quoi un bon pianiste? On en parlera tout à l'heure. Vous nous direz comment vous avez fait votre sélection. Alors, pour la première fois, on a de la photo ce soir. Bonsoir, Françoise Lerusse.
Bonsoir.
Voilà, que j'ai confondu tout à l'heure avec Gilles Ledur. Mais voilà, Françoise Lerusse, très, très contente d'avoir pour une fois de la photo. Alors, on va voir comment on peut parler de photo, puisqu'on n'a pas d'image. On aurait pu, puisqu'on est filmé, finalement, montrer quelques photos. Mais j'ai eu l'occasion de visiter la galerie, l'exposition, dans laquelle vous n'exposez pas seul. Hein. C'est une équipe. Et puis, voilà, c'est un exercice nouveau. Parler d'images. On va voir comment on y arrive toutes les deux. On va essayer ensemble.
On va essayer.
De faire ça. Dominique Corbio, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, aussi double casquette ce soir, puisque intervieweur de... voilà, et aussi... Oui. Tu viens nous présenter aussi ton spectacle que tu joues le 14 février.
Tout à fait, pour la Saint-Valentin.
Qui est très romantique d'ailleurs, comme,
oui.
Voilà, qui se passe à Venise.
À Venise, à la période baroque évidemment.
Voilà, dans lequel tu joues, tu chantes, tu écris, tu produis.
Alors là, quelques casquettes aussi.
Les casquettes sont super multiples.
Je les empile un peu.
Voilà, et Henri qui a une double casquette aussi, puisqu'il est technicien et frère. Ce sont deux rôles de composition. Je sais pas. Et on va commencer avec Nathalie. Non, j'ai oublié de vous dire que après ça, nous aurons aussi Thierry Lopez, qui est un comédien qui a eu le prix, donc le Molière 2023, double Molière, donc double casquette aussi, puisqu'il est Molière du comédien et du metteur en scène pour une pièce qui s'appelle Oublie-moi, qu'il vient jouer au Centre culturel d'Orgem à partir de demain et toute la semaine. Dimanche aussi, pour ceux qui aiment bien aller le dimanche après-midi au théâtre. Et puis nous aurons, on finit en beauté, avec le champion du monde de magie qui vient avec 16 autres magiciens. Oui, oui, c'est un spectacle avec 17 magiciens. C'est le festival Vive la Magie. Et donc, ils viennent trois représentations le 17 et le 18 février. Oui, un jour, ils jouent deux fois. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Il y a des ateliers de magie, il faut amener les enfants, il faut amener les... Enfin, c'est vraiment un spectacle tous les âges. Donc, théâtre, piano, photo, chant lyrique, re-théâtre parisien et magie, je crois que là...
Beau programme.
Le menu est pas mal, moi je dis. Hein. Voilà, et on va commencer avec Nathalie donc, et chez Colette. Alors, qui est Colette?
Alors... Alors, Colette, c'est le nom d'un restaurant.
D'accord.
Qui est en voie de s'ouvrir.
D'accord.
Et en fait, c'est l'histoire de deux femmes de mon âge, de notre âge, à Marie-Paul Cumes et moi. On s'appelle les vieilles, comme ça c'est plus simple. Et on passe devant un restaurant, on voit qu'il y a une annonce, ils cherchent des serveurs, serveuses. Et donc on se dit, ben, on a la retraite, on va se présenter pour travailler, pourquoi pas. On a encore plein d'énergie, plein de vitalité. On rentre dans le resto et c'est tenu par deux jeunes qui sont en train d'ouvrir le restaurant. Eux, ils sont en train de faire un restaurant avec de la conscientisation politique, enfin, un restaurant un peu d'aujourd'hui. Mais ils nous regardent en se disant, mais nous, on n'a pas du tout envie de travailler avec deux vieilles. Et donc on va discuter, s'imposer pour finalement... peut-être essayer de trouver le chemin et comment aujourd'hui vivre ensemble en fait.
C'est ça.
Donc, d'une manière intergénérationnelle.
C'est ça. Donc, ça part d'une thématique quand même très actuelle.
C'est l'âgisme. Ah, c'est de vraiment de ça que ça parle.
Et puis le mélange des générations, en fait.
Et le mélange des générations.
C'est ça. Comment vivre ensemble?
Oui, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre?
Oui,
voilà. Choses comme ça.
Oui, ou accepter aussi, nous, de vieillir, eux, d'avoir l'âge qu'ils ont, accepter de se dire qu'il y a peut-être moyen de trouver le chemin pour travailler ensemble. Enfin bon, voilà, c'est de ça que ça parle.
D'accord, mais toujours traité avec humour.
Oui. Mais après, c'est traité avec humour, mais... par exemple, on va appeler les jeunes, ou c'est les vieilles, mais les jeunes, ils sont là, ils ont des combats politiques, ils nous font des reproches, on a foutu le monde en l'air, qu'est-ce que vous nous avez laissé, comment est-ce que nous, on va faire, vous êtes là, vous avez profité de tout, vous étiez seul dans vos bagnoles pour aller faire des courses, vous jetez la bouffe que vous achetez par les... Quelle planète vous nous avez laissé.
C'est ça.
Donc ça parle de ça aussi.
C'est ça.
Mais ça parle aussi de comment nous, quelle est notre place en fait. Nous qui avons l'âge qu'on a, comment est-ce qu'on fait pour continuer à exister, à vivre avec eux en fait.
C'est ça. Et entre donc alors les vieilles,
oui.
c'est toi et Marie-Paul Kums,
oui.
Il y a une différence entre les deux?
Non. Enfin, oui, on est très différentes. Elle, c'est une ancienne prof de chimie et moi, je travaillais dans les bagnoles. J'étais directrice marketing pour le Benelux chez Mercedes. Donc voilà. Donc on vient tous les deux. Oui, je sais, c'est un peu étonnant, mais moi-même, je suis un peu surprise. Mais donc voilà. Donc on vient pas du même univers, mais on est deux grandes amies et on a déménagé en face de ce restaurant. On va être en colocation. Deux vieilles qui se mettent en colocation et donc on nous a foutu à la retraite et voilà.
Oui,
voilà, on en est. Et on est fort différentes.
C'est ça. Donc, en fait, surtout en France, on parle beaucoup de la retraite. Bon, alors, nous, en Belgique, on rigole parce qu'ils trouvent que 60 ans, c'est déjà très vieux.
Oui.
Chez nous, c'est 67. Hein, voilà. Mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si on doit vraiment travailler jusqu'à 67, est-ce qu'on est vraiment capable? Est-ce qu'on veut de nous?
Mais ça dépend dans quel métier.
Je dis nous parce que...
Oui,
voilà.
Oui.
Je ne sais pas dans quel métier on veut de nous encore, à part en politique, finalement.
Oui, oui. Enfin, je pense que à 60 ans, c'est un âge où on bascule un peu au niveau de l'énergie, je pense. Après, il y a des métiers qui sont plus fatigants que d'autres. Moi, mon métier, je pourrais le faire peut-être très longtemps, mais il y a des métiers où je peux comprendre qu'on...
C'est une vraie question. Est-ce que la mémoire, justement, d'un comédien, est-ce que ça évolue? Est-ce que quand tu avais 20 ans, les rôles, ça prenait... De la même manière.
Je sens quand même que je suis un petit tournant. Donc, je sens que c'est un peu plus compliqué, en fait. La mémoire, une fois que la mémoire, elle est acquise, elle est acquise. Mais le processus pour arriver à apprendre par cœur un texte, ce processus-là est un peu plus, pour moi, laborieux qu'avant, en fait. Un petit peu.
C'est ça. Mais peut-être qu'il y a de la technique qui s'est mise en place.
Oui, il y a de la technique. Mais je pense qu'avec l'âge, il y a la charge mentale. Il y a plein de choses qui font que... ma charge mentale est un peu, énorme.
Elle est remplie.
Elle est remplie.
Le sac est bien plein.
Voilà, elle est pleine. Je trouve même pas mes mots.
Il faut trier un peu.
Et je pense que c'est un peu plus laborieux. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du processus du travail, d'apprentissage d'un spectacle. Ça,
oui.
C'est comme ça.
Mais peut-être qu'avec tout ça, on est fatigué, mais on a une autre sérénité que les jeunes qui se créent des problèmes. Ils ne se créent pas des problèmes. Il y a des problèmes, mais ils les prennent en charge, justement, la planète, les injustices, les agriculteurs, ils prennent tout. Enfin, c'est des éponges et il y en a qui souffrent vraiment.
Mais c'est-à-dire que on est dans une période où le monde, c'est compliqué pour cette nouvelle génération. De se projeter dans l'avenir, c'est quand même compliqué. Donc, pour nous, je trouve que c'est très interpellant, très culpabilisant, et à juste titre. Donc, je crois que pour eux, franchement, l'avenir n'est pas rose, quoi. Je veux dire, voilà. Après, comme elle dit dans la pièce, vous êtes content, vous allez bientôt crever. Ben, quelque part, c'est un peu vrai. Je veux dire, voilà, j'espère que ça va aller pour mes enfants dans 40, 50 ans.
Oui, mais finalement, nous aussi, quand on regarde en arrière, on se dit, oui, nos parents, ils ont eu l'âge d'or, c'était facile. On ouvrait une boutique, ça marchait.
Oui, c'est vrai.
Donc, on en veut toujours à la génération précédente. On a toujours l'impression que c'était plus facile avant.
Oui,
peut-être
mais
pas
là,
mieux, mais plus simple.
C'est vrai, tu as raison. Mais là, il y a quand même de quoi, je trouve, un petit peu s'inquiéter. me semble-t-il. Voilà. Je pense, le climat, la migration, le fait que nous, on est dans un pays vieillissant, donc il va falloir qu'on accepte de recevoir les gens qui viennent de pays qui vont devoir migrer. Donc moi, je pense qu'on est quand même dans une phase du monde un peu compliquée.
En tout cas, on doit s'adapter plus vite qu'avant parce que tout évolue plus vite. Mais et donc, les certitudes sont bousculées tout le temps. Quoi. On faisait du ski, il n'y a plus de neige. Tout est à remis en question. À quel genre de public c'est destiné, en fait ?
Mais à tous les publics. Enfin, évidemment, je suis une vendeuse, donc je dois
te dire. Non, mais c'est vrai.
À tous les publics. Mais,
Mercedes pour tout le monde.
Non, mais franchement, c'est une comédie. Oui. On joue avec trois jeunes comédiens. C'est super gai, d'ailleurs, de jouer avec trois jeunes comédiens qu'on a découverts, qui ont passé une audition. On en a vu 70. On en a choisi trois, qui sont géniaux. Et donc... Donc, ça veut dire que eux, les gens qui vont venir, des gens de leur âge, peuvent venir voir et peuvent être interpellés.
Oui, chacun va s'y retrouver, que ce soit où on va retrouver sa mère, peut-être ceux qui sont entre les deux, ils vont retrouver peut-être.
C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le théâtre est fréquenté par des gens un peu plus âgés de manière générale, sauf dans certains lieux un peu plus différents. Le stand-up amène beaucoup de très jeunes. Oui. Mais là, ce spectacle, me semble-t-il, pourrait vraiment attirer tout public, en fait. Oui. Pas des enfants, mais des jeunes et des vieux. Ça parle de des jeunes et des vieux.
C'est ça. Et ça amène à discussion après, alors peut-être entre les générations.
J'espère. Je ne sais pas. On n'a pas encore commencé.
Non.
Mais j'espère.
C'est ça. Est-ce qu'il y a encore chez vous, est-ce qu'il y a déjà chez vous aussi des, comment ils appellent ça, des bords de scène où il y a des soirs où on peut discuter
Ça nous arrive. Il y a des spectacles qui mènent à ça, en fait, qui sont un peu. Où les thèmes mènent à ça. Je me souviens quand on avait fait ADN de Myriam Leroy. Oui. Automatiquement, on avait envie de faire un bord plateau et de parler aux gens qui avaient des questions à nous poser sur ce thème-là. Quoi.
C'est ça. Autour de la table, ça vous dit qu'est-ce qui vous donne envie dans cette pièce
C'est toujours intéressant de traiter les sujets où on le vivre ensemble, ce que les gens peuvent s'apporter. C'est dans une direction de pacification, de s'apporter des choses. Donc c'est mieux ça que dans une société où il y a tellement de conflits et de confrontations, c'est bien d'aller vers le rapprochement. Voilà.
Bien sûr.
Rien que ça.
Et d'espoir.
Oui.
Parce que tu parles de nos parents ou de nous qui sommes les vieux, Nathalie, et qu'on a eu la chance énorme de vivre un âge d'or. Nos grands-parents, eux, ils ont vécu l'horreur.
Ah, je suis bien d'accord. Oui.
Et nous sommes quand même là, d'abord.
Oui, c'est vrai.
Et ils nous ont offert un monde meilleur. Donc, je crois que c'est une leçon d'histoire et d'espoir, surtout.
C'est vrai.
Incroyable.
Non, absolument.
J'avais imaginé un moment de faire une émission avec plusieurs générations et de parler de même thème et même de musique, mais vu par les jeunes de 15 ans et puis de 40 ans et puis de 60 ans, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a trop d'émissions, ou soit pour les jeunes, ou soit pour les personnes un peu plus âgées, mais un petit peu parler de la même chose sur plusieurs générations. Ça donne très envie.
Et on serait étonné de voir qu'il y a bien plus de convergence qu'on ne pense. Mmh. Moi, je le vois en photographie quand j'expose.
Oui.
Il y a des jeunes, il y a des gens plus âgés. Ils posent un peu les mêmes questions, ils voient un peu les mêmes choses. Ils le voient différemment, mais avec beaucoup de tolérance, beaucoup de curiosité. Donc, l'attitude de bienveillance, elle est toujours là. Mmh. On a l'habitude d'entendre opposer les boomers et les jeunes, mais en fait, c'est un peu la surface des choses. Et quand il y a un contact humain, ça se passe autrement. Quoi. Mmh.
Et peut-être dire aussi aux jeunes qu'ils ne sont pas obligés de porter le poids du monde.
Oui, c'est ça que je dis.
Il est énorme. Donc, de toute façon, ça risque toujours d'écraser les épaules, les pauvres petites épaules. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir leur dire aussi, un jour à la fois, et faites une petite
chose. Chacun fait sa part, c'est ça.
Chacun fait sa part. Et voilà, et c'est ça le progrès aussi.
Mais c'est vrai que c'est pas une maladie, mais comment ça s'appelle encore les jeunes justement qui se sentent, qui se rendent malades avec
l'éco-anxiété.
Ouais. Voilà. Et puis il y a toutes sortes d'anxiété. Hein,
effectivement, pour l'instant, les troubles psychiatriques et tout ça explosent.
Chez les jeunes et chez les enfants. Ça commence très, très jeune.
Il y a un état de sidération, en fait. J'ai parlé avec justement une psychiatre qui disait qu'il y avait beaucoup de... Ils sont complètement comme congelés, en fait. Ça bug. Donc c'est très, très effrayant.
Enfin voilà, on souhaite plein de succès, alors qu'on peut peut-être nommer tous ces jeunes, ces trois petits jeunes-là.
Bien sûr, j'espère que je me souviens de leur nom de famille. C'est ça que ça va être plus dur pour moi.
Alors,
donc il y a Emma Sen,
il
y a Jeanne, c'est pas son nom de famille.
Cazel,
il y a Timothée, je sais pas son nom de famille.
Journeau.
Timothée Journeau. Et donc c'est mis en scène par Ariane Rousseau. qui est une comédienne avec qui moi je travaille depuis des années. Et alors, il y a Marie-Paul Kums qui joue avec moi.
Eh ben, ça donne envie quand même.
Ça donne envie.
Ouais.
Franchement. Alors, on peut dire que vous commencez le 22 février jusqu'au 30 mars.
Oui.
C'est un des théâtres qui donne le plus de chances, je veux dire, au spectacle de se développer, de faire connaître, etc. C'est très, très rare, 5 semaines de spectacle. Et c'est bon, apparemment un modèle qui fonctionne, puisque vous le conservez depuis si longtemps.
Ben, c'est-à-dire que c'est un modèle qui fonctionne parce que nous, on ne peut pas se permettre de perdre des sous. Et donc, en fait, au plus on joue, au plus on peut rentabiliser ce qui est déjà... qui sont les...
Parce que c'est bon et parce que les gens viennent. Parce que
oui, il faut que, les gens viennent.
Ils viennent sur 5 semaines. Il faut trouver un peu plus de public, voilà. C'est super.
Mais pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne.
Oui, mais c'est... Voilà. Non, tant mieux, vraiment. Oui. Longue vie au Théâtre de la Toison d'Or.
Merci.
Et donc, on va quand même écouter de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter?
Étienne Dao.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Boyfriend.
Voilà.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi, celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout près, gardant bien mes distances. Ton poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai. Je serai ton défi, mais ni ton père, ni ton psy. Et lorsque tu dérouilles, je serai là pour calmer les embrouilles. Une solide épaule. Si tu perds le contrôle, ta machine infernale, ton étalon, la BO de ton film. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai à l'envie.
Je me demandais s'il y avait un piano sur ce qu'on vient d'entendre, je ne sais pas.
Mais un piano électronique, certainement.
Oui, voilà.
Et c'était la grande époque des synthés, hein, donc,
c'est ça.
Années 80, années 90. Et ici, on parle de vrais pianos. Enfin, bien que peut-être que les popeux diront que c'est...
Quoi que...
Oui, c'est ça, que c'est aussi du piano. C'est aussi la confrontation de génération entre l'ancien piano et le piano électronique. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la 11e édition des Flagey Piano Days, un festival qui se déroulera du 7 au 11 février. Donc, ça commence mercredi, ici jusqu'à dimanche, et qui met à l'honneur, vous vous en doutez, le piano, l'instrument roi, comme on l'appelle souvent. Et pour en savoir plus sur la programmation de ce festival qui s'annonce extrêmement riche, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Gilles Ledur, directeur général de Flagey, comme Eric nous l'avait annoncé. Alors, cette année, c'est un peu particulier, Gilles Ledur, parce que c'est la première fois que la programmation a été conçue par une curatrice invitée, en l'occurrence la pianiste Anna Vinitskaya, premier prix du concours Reine-Elisabeth 2007, excusez du peu. Et donc, Gilles Ledur, quelles ont été les sources d'inspiration ou tout simplement les envies qui ont guidé ces choix de programmation?
Alors, c'est très, très simple. Anna, je la suis depuis longtemps. Je l'avais revue à Lucerne en été 2021, je crois, ou 2020. Non, 2021. Je voulais absolument la convaincre à venir travailler chez nous parce qu'elle a évidemment un agenda assez chargé. Et je lui ai dit, si tu viens, tu décides de tout et pendant toute la semaine.
C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser.
Ça se refuse pas. Voilà. C'était l'argument qui tuait, évidemment. Et donc, elle a tout de suite accepté. Mais surtout, je trouve que c'est une musicienne hors pair. C'est quelqu'un qui aime son instrument. Et d'abord est quelqu'un qui travaille comme un artisanat à fond son instrument, qui réfléchit le répertoire, qui est issu d'une grande tradition pianistique, quand même, qui est la tradition pianistique russe. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui aime la transmission. Et c'est très important pour nous à Flagey, parce que ce bâtiment a une histoire de transmission. La radio, c'est la transmission. C'est essayer de passer d'une façon agréable, d'instruire les gens. Parce qu'on est passionné par quelque chose et que par les ondes, on a envie de faire profiter le plus grand nombre. Voilà, et Anna, elle réunit tout ça.
Et vous parlez de transmission, et d'ailleurs, je pense que dans la programmation, elle a décidé d'inviter son professeur, Evgeny Korolev, oui, et son épouse, et puis aussi ses propres élèves à l'école de musique de Hambourg. Et donc, c'est vraiment...
Oui, Levi Schechtmann.
La boucle est bouclée, quoi.
Oui, tout à fait.
Et sur un répertoire, elle a apparemment une grande affection pour la musique de Bach, puisque Bach sera très présent dans la programmation, ouais, notamment avec des concertos. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette envie de défendre Bach?
Je crois que là aussi, c'est très cohérent. Bach, d'abord, c'est la synthèse de 500 ans d'histoire de musique avant lui. Et puis, après lui, c'est un géant. Donc, on est tous imprégnés par Bach. Ça reste toujours quelque chose de fond. C'est Moran, je crois, qu'il le chante sur un prélude de Bach. Et elle a très bien ressenti ça et d'une façon extrêmement naturelle exprimé ce que c'est. C'est une musique qui, d'une part, nous prend par les tripes.
Et une universalité.
C'est très universel. Ouais. Et en même temps, c'est une musique extrêmement savante.
Oui, bien sûr.
Donc, ça mélange, je dirais, le meilleur de ce qu'on peut être en tant qu'être humain. C'est de la recherche, l'intelligence et en même temps, cette grande transmission du cœur, des choses du cœur. Et Bach est là, donc elle part de Bach. Bach, en même temps, était aussi quelqu'un qui était dans la transmission. Il était le directeur de l'école la plus importante de son temps. C'était à Leipzig, ce qu'on appelait une cantorei, hein, une école où on apprend à chanter.
Et puis, il avait ses petits élèves à la maison avec ses nombreux enfants.
Ah oui, il y en avait quelques-uns. Je crois qu'il y en avait
une dynastie complète.
14, je crois, si je me trompe. Oui. C'était assez intéressant de voir comment cette dynastie, et lui-même étant issu d'une grande dynastie. Mmh. Donc voilà, tout ça pour dire que ce personnage de Jean-Sébastien...
Incontournable,
et l'avoir mis au centre même de toute l'action, qui est une grande action de générosité,
ça avait du sens.
Je crois que ça avait beaucoup de sens.
Et donc, les Piano Days, c'est évidemment des grandes stars confirmées, mais également des étoiles montantes, un peu moins connues. Alors, quels sont, pour cette édition, les grands noms que le public pourra retrouver, et aussi ceux qui seront plutôt une découverte?
Alors, commençons par les grands noms,
oui,
puisque voilà, il y a évidemment Daniil Trifonov et Gauthier Capuçon, ce sont des monstres sacrés de leurs instruments, pianistes et violoncellistes. Il y a Anna elle-même, qui fait une grande, grande carrière avec tous les grands orchestres du monde, voilà. deux jeunes fringants et très beaux, Nathalie, je te regarde, parce qu'on a chez nous aussi. Ah. Il y a Lucas et Arthur Jussen, ce sont des jumeaux, deux frères hollandais qui cassent la baraque, comme on dit. Ils sont dans le monde entier, ils viennent chez nous.
Ils jouent à deux ensemble.
Ils jouent à deux ensemble, toujours, partout. Ah, ils voyagent ensemble.
Comme les sœurs Labeck à l'époque.
Les sœurs Labeck, c'est les frères Labeck du 21e siècle. Donc c'est très chouette. Mais aussi Stefano Bolani, par exemple. Grand jazzman. Il y a Ron Herrmann, grand jazzman aussi, super improvisateur. Là aussi, on parlait de Bach, l'improvisation, enfin voilà, prendre un matériau, en faire quelque chose.
Oui, on dit souvent que Bach, c'est du jazz avant la lettre.
Hein, bah, absolument. Hein. Et vous allez voir, je crois qu'en plus, quand on écoute les concertos pour clavier, d'ailleurs, qui seront là pour un clavier, deux claviers, trois claviers, ça swing. C'est vraiment c'est du très, très beau répertoire. Alors, parmi les jeunes, Levi Schechtman, qui est un élève de Anna, qui fait un spectacle Back to the Future. Alors, j'ai trouvé ça un peu bateau. On le sait. Il a osé. Et puis, je me suis dit, dans toute sa naïveté, sa candeur, laissons-lui ce titre. Mais c'est un improvisateur hors pair et qui a l'intelligence de réunir le monde du hip-hop et le monde de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un monde de rhétorique. C'est savoir comment on dit les choses. Le hip-hop, c'est ça aussi. C'est rythmiquement faire passer
une forme extrêmement,
précise. Donc, c'est quelque part aussi littéraire. Il y a Spartak, Marc Guirossian, je m'excuse, mais faut un petit peu, j'ai mangé trop de très bons bonbons ici. Pour les auditeurs, il y a des superbes bonbons ici, mais qui sont très sûrs. Alors, du coup,
ça fait beaucoup de salive, on vous pardonne.
Voilà, il y a Lucas Ternat, c'est un jeune Allemand, superbe pianiste du répertoire schumannien. D'ailleurs, Anna terminera le week-end par Schumann et Jörg Wittmann, puisqu'il y a aussi nos auteurs contemporains. Jörg Wittmann, pour ceux qui ne le savent peut-être plus, c'était la pièce imposée au concours de violoncelle lors du dernier concours Elisabeth de violoncelle. Une pièce très, très chouette, ça swingait de tous les côtés. Enfin bon, voilà, c'était très, très simple.
Donc on voit bien que le répertoire est vraiment, vraiment très, très vaste. Donc on va du baroque avec le Bach et puis jusqu'au jazz en passant par les grands romantiques et puis des œuvres de compositeurs contemporains, vous le rappeliez. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les formats des concerts sont aussi assez ramassés, une heure environ, qui permet de rester accessible et garder un certain dynamisme. Et puis il y a plusieurs concerts aussi, parfois dans la même journée. Donc on peut faire une sorte de marathon et réserver les différents concerts qu'on a envie de voir et puis se faire une petite après-midi ou soirée à Flaget et errer d'un studio à l'autre pour découvrir des merveilles pianistiques.
Tout à fait, mais avec l'avantage sur le vrai marathon, c'est qu'on a le droit de se reposer entre des concerts et qu'on peut prendre un verre et que, voilà, que c'est sympa. Et il y a une œuvre dont j'aimerais encore vous parler, qui est celle d'Eugène Korolev, le professeur d'Anna.
Oui.
Qui joue les variations Goldberg. Et c'est un message très, très fondamental, je crois, qu'on va donner, parce que c'est le premier recueil où on reprend toutes les techniques de composition des 500 ans avant et de toutes les régions d'Europe, de tout ce qu'on connaissait à ce temps-là. Bach, c'est fin 17e, début 18e.
C'est une sorte de Bible, en fait.
C'est une sorte de Bible. Et deuxièmement, ça reprend des danses de partout, du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Europe, à l'est, à l'ouest. Et c'est un hommage à tous ceux qui aujourd'hui prêchent quelque part la paix et qui prêchent aussi la réunion et l'union du savoir et du savoir-faire.
Et donc ça fera partie de la programmation des concerts.
Dimanche matin, 11h.
Et donc, il n'y a pas que des concerts, il y a également une expo avec la Maison Mann, donc facteur de piano. Il y a aussi quelques conférences et puis un spectacle dédié aux familles avec la compagnie Artichoc, explorant avec le chant, le piano et des marionnettes aussi l'univers de Ravel. J'imagine qu'on aura au répertoire les contes de ma mère Loi et de la musique de ce genre.
Ravel qui avait cette grande capacité de rester jeune.
Oui.
À tout âge, il a été extrêmement.
Il savait
jeune.
Toucher le monde de l'enfance.
Oui, il y avait une sorte de candeur qui était magnifique. Et là, on revient à toi, Nathalie, qui nous parlait de ces jeunes qui nous apportent quelque chose et qui nous font réfléchir. Je crois que Ravel, c'est tout à fait.
Tu veux poser une question ?
Oui. On rappelle d'abord les dates, peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est donc du 7 au 11 février, donc mercredi ici jusqu'à dimanche, à Flaget, évidemment. Et peut-être que vous avez un choix musical. On va peut-être justement écouter des extraits, un extrait
J'avais juste une petite question. Bien sûr, alors, finalement, les pianistes professionnels, on peut jouer jusqu'à quel âge ? Puisqu'on parle de...
On peut parler... Tant que les doigts, suivent, pour le dire, ben, on peut... je crois que tout simplement avec l'âge, il y a des choses qui sont extrêmement virtuoses, qui deviennent un peu plus difficiles, ou par exemple qui sont physiquement très lourdes, comme le troisième concerto de Rachmaninoff. Hein,
c'est de l'athlétisme, là, c'est de l'haltérophilie presque.
Bah, faire ça à 92, 93 ans, c'est peut-être plus difficile, mais il y a des pianistes qui ont joué jusqu'à 100 ans.
Donc qu'est-ce qu'on écoute alors,
Gilles?
Les variations Goldberg,
voilà,
de Bach.
Par justement le professeur Dana Vitskaya. Très bien. Quelques notes de ces magnifiques variations Goldberg sous les doigts de Evgeny Korolev. Voilà, j'ai réussi. Gilles Ledur, peut-être vous pouvez nous donner quelques détails pratiques pour obtenir toutes les informations et puis surtout acheter les billets.
Alors, allez sur le site, tout simplement, flaget.be, ou passez chez nous et puis et achetez encore. Il y a déjà beaucoup de concerts qui sont sold out.
Yeah. Donc il faut se dépêcher.
Par exemple, il y a encore quelques places pour Eugène Korolev le dimanche matin. Il y a aussi encore un très beau concert avec Cédric Tiberghien, Debussy, les préludes de Debussy, et puis une nouvelle œuvre de Chris de Fort, ceux qui ont vu son opéra La Monnaie, magnifique.
On pourrait en parler longtemps, mais il faut avancer.
Donc tout sur flaget.be. C'est facile.
Merci
tout
beaucoup.
Se trouve là-bas.
Et on passe à la photo. Alors voyons comment on peut parler d'image à la radio. Alors on va commencer par parler de ce festival puisque c'est dans le cadre d'un festival photo qui se déroule donc jusqu'au 25 février. Donc on a encore un petit peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce festival ?
Mais c'est un festival qui existe depuis 8 ans. Ils en sont à la 8e édition. Et qui est piloté par Hangar Art Center, place du Châtelain, et qui réunit différentes galeries, lieux d'exposition, y compris d'ailleurs des galeries et des lieux qui ne sont pas en général dédiés à la photographie, mais qui jouent le jeu pour l'occasion. Et cette année, il y a une 60aine de lieux dans tout Bruxelles qui participent.
Et c'est gratuit.
Et c'est en général gratuit. La majorité sont dans une entrée gratuite. Il y a aussi un petit dépliant avec une carte, un plan de Bruxelles. Voilà, et on peut faire un petit circuit entre les différents lieux. Et on voit des expositions vraiment très, très différentes.
Alors, Françoise Lerus, vous exposez donc à la Little Gallery, donc près du Sablon, donc rue Lebeau, numéro
45.
45.
Il y a un grand chiffre sur la vitrine, on ne peut pas le rater.
Voilà, et vous n'êtes pas seule dans cette exposition.
Non, voilà, justement, en parlant de vitrine, il y a une grande photo de Didier Engels, qui est très connu pour ses photographies de containers. Il y a Didier, il y a Charles Chochnacki. Il y a José Azagra, qui est aussi le directeur de la galerie et le curateur de l'exposition. Mar Villapalos, qui est une photographe espagnole qui vit à Bruxelles depuis un an. Et moi-même.
C'est ça. Alors, comment on pourrait... Moi, j'ai été visiter votre galerie, je me suis fait expliquer un petit peu tout. Quoique, par exemple, Charles Chochnacki, quand on lui demande quels sont les lieux qu'il a photographiés, il a dit « je ne dis pas ». Parce que c'est quelque chose d'un peu intemporel. Enfin, comment on dit, ça peut être... partout et nulle part. Et c'est ça qui fait l'émotion, je trouve. C'est, voilà, oui. Qu'on n'a pas de point de repère, on trouve juste le...
Oui, voilà, parce
le
que...
propos intéressant.
Comme dit Charles, si on identifie le lieu, les gens ont tout de suite des images mentales par rapport au lieu. Ça. Et ça les sort de la photographie elle-même, en fait. Donc, il vaut mieux laisser aller l'imagination des gens.
Alors, parlez-nous de votre travail.
Alors, moi, mon travail, celui que j'expose à la Little Gallery, est un travail plutôt abstrait. Qui part de petites choses que j'observe dans ma vie quotidienne. Je suis très intéressée par l'architecture, les textures, les matériaux, le béton. Je travaille beaucoup les angles, les lignes, les contrastes et la lumière, parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse en photographie, c'est comment la photographie modifie notre façon de regarder les choses. Parce qu'en fait, on a tous des yeux différents, des cerveaux différents. Donc, la réalité, en fait, existe pour chacun.
Exactement. D'ailleurs, si on doit sortir de ce studio et que je vous demande à tous de décrire le studio, chacun va décrire autre chose.
Exactement.
Et vous décrirez les petits détails.
Oui, non, parce que... mais pas seulement. Hein. Je fais aussi d'autres photos qui sont des photos très urbaines. J'ai toute une partie de mon travail qui concerne la métropolisation du monde. Mais ici, c'est une recherche plus essentielle à la photographie. J'essaie d'explorer cette tension entre ce que je vois et ce que je peux en faire avec l'appareil, qui peut être très différent parce qu'un objectif n'est pas un œil. Et la façon dont on se positionne, dont on travaille la lumière, évidemment, rend des choses très différentes.
Alors, vous travaillez avec quel matériel ? Pas avec un téléphone ?
Non. Si, aussi. Ça, avec ce que j'ai sous la main. Parce que le meilleur appareil, c'est celui qu'on a avec soi. Sinon, il n'y a pas de photo, déjà. Assez rarement avec l'iPhone. Et sinon, avec des appareils numériques, plutôt des hybrides, qui sont légers, que je peux emporter avec moi.
D'accord. Alors, je vais vous faire parler des autres. Comme ça. Qu'est-ce qui fait la qualité de tous vos collègues là ? Qu'est-ce qui fait quelle différence entre ces artistes qui sont exposés, qui sont achetés, et nous tous ici dans le studio, avec les photos qu'on fait avec notre téléphone
Oui, en fait, la différence, c'est d'abord le regard. Les photographes ont en général un regard qu'ils construisent au fil des années. Ça ne vient pas tout de suite. Parce qu'ils ont aussi regardé d'autres photographes qui ont travaillé avant eux. C'est une culture, c'est aussi une sensibilité qui dépend de l'histoire de chacun. Il y a tout ce travail technique et esthétique qui est pratiquement quotidien et qu'on ne fait pas en général quand on se balade dans une ville avec juste un iPhone.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des messages dans...
Je ne sais pas. Il faudrait demander aux autres photographes ce qu'ils en pensent, parce que c'est leur travail. Moi, je ne cherche pas à faire passer un message. Je cherche plutôt à rendre la beauté de ce que je vois et à transformer cette beauté en quelque chose qui m'est propre, qui correspond à ce que je suis moi, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment un message...
Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ait comme émotion en regardant vos photos ? Déjà, une émotion.
Oui, une émotion, surtout esthétique, en fait.
C'est ça.
Oui, et de se poser des questions sur qu'est-ce que je vois. C'est ça qui m'intéresse. Parce que les gens, par exemple, ont des réactions très différentes. Il y a une photo qui les interpelle tous. C'est une petite photo où on voit un cercle lumineux et une croix en, qui a l'air d'être en bois, qui a été prise à Londres dans un bâtiment complètement contemporain. Et tout le monde y voit le Japon traditionnel. Mmh. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Cette tension-là entre l'objet réel et l'image qu'on peut en produire. D'ailleurs, l'ensemble de l'exposition, qui a été conçue donc, par José Azagra, s'appelle « Un peu plus qu'une image ». Et c'est cette interrogation-là, en fait. C'est jusqu'où peut-on aller dans cet écart entre ce qu'on voit et ce qu'on fait avec un appareil, jusqu'à oublier la réalité. En fait.
C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, dans, enfin, ce qui me touche dans une photo, c'est quand on a envie de la regarder longtemps. Parce qu'on ne comprend pas tout, on ne voit pas tout au premier regard.
C'est ça.
Et donc, ça donne envie de, voilà, de
ouais. chipoter. C'est les photos qui posent des questions, en fait.
Et les autres, vous êtes sensible à la photographie, par exemple, Nathalie, oui ?
Ah oui, très, oui, oui.
Et à quoi, par exemple, justement, quand
Mais j'aime bien voir des expos de photos. Donc, je viendrai voir votre expo. Et j'adore prendre des photos. Voilà, en toute humilité. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'était comment allier la technique et le côté instantané. Parce qu'en fait, comment... Je ne parle pas avec un iPhone, parce que c'est plus simple, mais avec un très bon petit appareil. Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois bon techniquement et avoir l'image immédiate? Parce que c'est... Enfin, après, tout le monde a son style au niveau de la photo, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'immédiateté, prendre tout à coup quelque chose... Comment on fait,
En fait, il faut pratiquer beaucoup, jusqu'à oublier la technique.
Ouais.
On règle son appareil, on a l'habitude de son appareil, et on connaît les réglages qui correspondent à ce qu'on a envie de faire.
Ouais.
Et donc, voilà, on oublie.
Et puis quand ce sont des natures mortes, on a un peu plus de temps.
On a le temps, oui. Ouais. Ce n'est pas toujours instantané non plus.
Non, non. Et vous, vous êtes inspiré parfois. Parce que moi, par exemple, quand je fais des photos, je me rends compte que j'ai rarement envie de prendre en photo... la Belgique ou ma ville. Moi, c'est l'étranger qui m'inspire. C'est quand je suis à l'extérieur et je me dis, je ne dois pas être la seule. Donc, je ne sais pas vous, dans votre cas.
Moi, j'avais ça avant.
Okay.
Je n'arrivais pas à photographier Bruxelles.
Oui.
Peut-être parce que j'y vivais.
Oui.
Maintenant, je n'y vis plus, en tout cas plus autant.
Oui, oui.
Et je commence à la revoir autrement.
Okay.
Mais aussi, le regard se construit au fil des années. Et on voit dans des lieux qu'on a déjà parcourus 20 000 fois des choses qu'on n'avait jamais vues.
Okay.
Il y a quelques jours, je me suis mise à faire des photos de façades, mais vraiment en très gros plan, dans ma rue, que je n'avais jamais vues comme ça. Parce que la lumière avait une certaine incidence, il y avait des jeux d'ombre très géométriques. Et je me suis mise à photographier ça pendant une heure de façon frénétique.
Mmh. Alors, on va écouter de la musique. Hein ? Qu'est-ce qu'on va écouter ?
On va écouter Lucy Antunes.
Merci pour la découverte. Parce qu'on
voilà.
ne connaît pas.
Et c'est un titre. Le titre s'appelle LMN.
D'accord. On aime aussi ce que Dominique fait.
Ah bah c'est
Dominique
gentil.
Corbin, voilà.
Sans
et
transition.
Dans un genre différent.
C'est moins électro-tribal, c'est sûr.
Mais peut-être qu'à l'époque, c'était quelque chose d'hyper moderne.
Absolument,
donc,
oui.
Donc, on est à Venise.
On est à Venise durant le carnaval.
De quelle année ?
Et au début du XVIIIe siècle. Il n'y a pas d'année précise. Et donc, c'est un spectacle qui s'appelle Il Teatro alla Moda. Et c'est basé sur un écrit d'un compositeur vénitien qui s'appelait Benedetto Marcello. Et qui, de manière anonyme au départ, a publié un pamphlet sur toutes les dérives et tous les excès du milieu de l'opéra à cette époque à Venise. Et Dieu sait que c'était extravagant et excessif. Et donc je me suis un peu inspiré de ces écrits pour créer une pièce où on rentre vraiment dans les coulisses de l'opéra à Venise au début du XVIIIe siècle. C'est vraiment une sorte de making of. Et donc j'interprète le rôle d'un chanteur fictif que j'ai appelé Zeffiretto. Et donc ce chanteur évidemment connaît tous les ingrédients indispensables pour faire un spectacle à la mode et qui réussit. C'est ça. Et donc il va guider un impresario en herbe qui veut monter son premier opéra pendant le carnaval, évidemment avec tout ce qu'il y a comme Henri, concurrence, bien, comme coup bas. Et donc il va vraiment le guider pour éviter tous les écueils. Et en fait cet impresario n'existe pas. Il est fictif, mais c'est le public qu'il devient. Je m'adresse au public qui devient l'impresario qui prend les conseils.
C'est un très beau spectacle avec un beau décor d'ailleurs.
Voilà, c'est un décor qui est un petit peu. Donc c'est une loge d'artistes et puis il y a une sorte de tableau magique avec des projections de peinture et de gravure 18e animées en 3 dimensions. Il y avait pas mal de changements costumes aussi puisque Venise et le carnaval, ce sont les masques. Voilà, et donc j'ai une dizaine de changements en costume de l'atelier fermé à Martial de Selva. Donc voilà, c'est visuel, c'est historique. La magnifique musique de Vivaldi, Handel, Bononcini et les autres. Et ça permet d'apprendre quelques anecdotes sur cette époque-là pour les gens qui ne connaîtraient pas et pour les gens qui aiment de réécouter ces musiques baroques magnifiques.
Donc le 14 février
Le 14 février au Wall. Si vous n'avez pas l'occasion, en avril, les 4 et 5 avril à la Vénerie à Boisfort.
Voilà, exactement. Avec plaisir. On écoute
Toutes les informations sont sur mon site, Dominique Corbio.
Salut Henri, j'espère que tu vas bien. Dominique, je t'envoie un petit son parce que on va juste faire une.
Et on passe alors la musique, non? Alors on a du vocal, comme on dit.
Oui.
Alors il faudra venir au Wall.
Il faudra pour m'entendre en vrai.
Il faudra vraiment qu'on
tu es de la famille
voit.
De Corbio
si, lequel entendre. Les deux, en fait. Ça marche pour, dans
le
les deux cas.
Le
réalisateur et l'architecte.
Et ouais. L'architecte. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ils sont de la même famille.
Oui.
L'architecte
oui.
Et le réalisateur.
Ouais.
Incroyable.
Oui, ouais, tout à fait.
Ouais. Tu as de talent.
Mais oui, ça, c'est dingue, ça.
Et des gènes.
Tu es de la famille de Gilles Corbio.
Oui, aussi, tout à fait. Qui est le fils d'un autre encore.
Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça.
Et on va passer alors à Thierry.
Bon, ben voilà, pas d'extrait de Scarlatti, venir, c'était si beau pourtant. Bon, mais venez ouais. Le 14 ou en avril ouais, à la Vénerie.
Voilà, juste avant avril, on passera un
très bien,
grand
c'est
morceau.
Gentil.
On passe à Thierry Lopez. Donc, Thierry Lopez, c'est un comédien français que vous connaissez certainement, qui a eu donc le Molière du meilleur comédien et du meilleur metteur en scène pour la pièce Oubliez-moi, qui se joue à partir de demain au Centre culturel de Dordrecht. Ça se joue donc de demain mardi jusqu'au dimanche. Donc, il y a certainement des places encore pour quelques jours. Précipitez-vous parce que la pièce est extraordinaire. Donc, ça parle de les pertes de mémoire, mais jeunes, pas pour les vieux, justement.
Ah ouais.
Gros problème. Mmh. Voilà, on écoute Thierry Lopez. Thierry Lopez, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur les ondes de Radio Judaïka, dans l'émission Judaïka Culture Club. Voilà, nous avons une émission hebdomadaire dans laquelle nous parlons uniquement de spectacles vivants. Et principalement théâtre.
J'adore ça.
Voilà, on essaye de pousser les gens à sortir de chez eux pour assister à des spectacles vivants, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait... Voilà.
Exactement, je suis tout à fait en accord avec cette devise.
Je ne sais pas si vous connaissez la Belgique déjà, vous êtes déjà venu?
Je suis déjà venu à Bruxelles, oui.
Ah, d'accord.
Oui, je suis venu plusieurs fois. Je suis venu pour Avanti avec Francis Huster et je suis venu pour Georges et Georges avec David Sardou, David Brasseur sur une pièce d'Eric Emmanuel Schmitt.
Qu'on connaît bien ici à Bruxelles, puisqu'il a ses quartiers pas loin de la radio d'ailleurs. Alors, vous venez à Oudergem nous présenter Oublie-moi du 6 au 11 février au Centre culturel d'Oudergem. Alors, cette pièce, donc nous avons eu tout à l'heure en ligne votre comparse Marie-Julie Beaupe. Voilà, très enthousiaste sur ce magnifique projet. J'imagine que vous le serez aussi, puisque vous êtes vraiment à la base du projet, puisque cette pièce vous a apparemment touché en plein cœur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, en fait, oui, c'est une pièce qui m'a vraiment touché à la lecture. Je l'ai découverte à Londres et dès que je l'ai lue, j'ai été bouleversé par son émotion, par le parcours de ces deux jeunes âmes formidables, amoureuses. Alors, c'est une histoire d'amour, hein. C'est une histoire d'amour totale, magnifique, gigantesque. Le tableau va se noircir quand on va arriver à un troisième personnage qui est la maladie. Et effectivement, c'est une histoire sur la fidélité, sur comment accompagne-t-on l'autre dans la difficulté, comment fait-on triompher l'amour après que le tableau se noircit. Voilà, c'est une pièce grande.
C'est ça, pour le meilleur et pour le reste. Hein.
Exactement.
Alors, vous avez tout fait à deux là, dans ce projet. Donc, vous avez pas seulement traduit, mais adapté. Vous avez porté le projet, mis en scène, oui. Joué. Je ne sais pas qui a produit, mais bon. En tout cas, vous avez...
Ah oui, c'est Théâtre Actuel qui a produit.
Magnifique. Et puis, vous avez été récompensé pour tout ça. Beaucoup d'efforts, mais récompensé.
Exactement. Je crois qu'en fait... C'est une pièce qui était... Déjà, c'est une histoire, enfin, c'est une rencontre avec Marie-Julie. C'est l'envie aussi de faire un projet à deux, parce qu'on avait travaillé deux fois ensemble sur deux pièces différentes, un Shakespeare et une comédie. Et vous m'entendez bien ? Ouais,
très bien.
Ok, super. Et en fait, oui, donc ça partait vraiment de l'avis de travailler ensemble avec Marie-Julie. Et oui, en fait, on s'est dit, bon, allez, c'est parti. On rêve sur une mise en scène. Et au final, on a eu du mal à faire des compromis en laissant la mise en scène à quelqu'un d'autre. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas, allons au bout de nos envies. Et donc, on s'est mis à rêver sur la mise en scène. L'adaptation, c'est Marie-Julie qui l'a signée. Moi, j'avais traduit le texte. Et de toute façon, à la base, quand j'ai découvert la pièce, je voulais absolument la jouer avec Marie-Julie. Donc, le désir de jeu, il était dès le début. Et effectivement, ça a été récompensé par des Molières. Alors, je crois qu'en fait, c'est l'audace qui a été récompensée parce que c'est une pièce ambitieuse dans le sens où on parle quand même d'un thème grave. Mais on le fait. Enfin, pour nous, ce qui était intéressant, c'était l'équilibre entre ce thème grave et qu'il fallait être cohérent. C'est-à-dire qu'on parle des sept stades de la maladie à travers un couple. Et en même temps, c'est un objet théâtral. Auquel on a envie d'amener toute la fantaisie, tout le pop, tout le rock, tout l'humour. Et donc, c'était cet équilibre qui était intéressant à trouver. Et je crois que cette audace a été saluée parce qu'on on a un vrai choix de mise en scène, on a un vrai choix de scénographie. Et je crois que ça a apporté un espèce de vent de fraîcheur dans le paysage théâtral privé français. Quoi.
Enfin, magnifique. Malgré votre très longue carrière, peut-être que c'est le meilleur moyen d'avoir des beaux rôles. Enfin, les rôles qui vous plaisent, c'est de les écrire, mais en tout cas, de porter le projet vous-même.
Vous savez, on dépend tellement du désir des autres dans ce métier que parfois, les rôles qu'on nous propose ne sont pas en adéquation avec le moment dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'on nous propose une comédie, on a plutôt envie de jouer un drame. On nous propose de jouer un drame, on a plutôt envie de rire. Donc en fait, effectivement, se servir soi-même. Et c'est surtout aussi, vous savez, quand on arrive à un certain âge dans ce métier, on a envie de défendre des pièces qui ont du sens pour nous. Et moi, je sortais d'Ishbin Charlotte, qui était une pièce engagée, qui était un seul en scène engagé. Et donc, j'avais aussi envie de raconter quelque chose qui est en écho avec ma vie, qui parlait, qui avait du sens. Et je crois qu'en ce texte, j'ai retrouvé cette envie d'aller sur les planches et de défendre une écriture, un thème fort. C'était important pour moi.
Alors, j'ai vu dans votre biographie, vous avez beaucoup travaillé avec Steve Suissa. On le soutient beaucoup parce que on est très heureux qu'il amène le théâtre francophone en Israël.
Bien sûr. Donc,
avec beaucoup de goût et beaucoup de motivation.
Ouais.
Et alors, je ne sais pas combien de spectateurs a eu ce film, mais en tout cas, moi, je l'ai vu avec grand plaisir. C'est Le Cochon de Gaza, qui est
Bien sûr.
qui est un film que j'ai trouvé succulent.
Ouais. Il est merveilleux. Et c'est Sylvain Stival qui a signé la mise en scène de ce film magnifique. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse, c'est beaucoup
vraiment
d'humour. Et c'est une farce politique, mais c'est merveilleux parce que c'est un film pour la paix. Et aujourd'hui, évidemment, ça a une résonance toute particulière. Et c'est un film, vraiment, je suis très fier d'être à l'affiche de ce film.
Oui. Il devrait ressortir, je trouve, maintenant.
Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'était, ouais, ouais. C'était vraiment ouais. Charmant. Bah alors, dernière petite question. Alors, comment on fait pour mettre en scène Marie-Julie, qui est quand même un Stradivarius?
Ouais, tout à fait. Bah, vous savez, c'est un bijou, comme vous dites, c'est un Stradivarius. On a une confiance totale l'un dans l'autre. Je crois que ça n'a été que magie, le travail avec Marie-Julie, dès le départ. Je crois qu'on a la même fibre, la même exigence, le même œil sur le plateau. Donc, ce n'était que de l'amour, j'ai envie de dire, de la bienveillance. Ça a été extrêmement facile. Après, on est exigeant, on travaille beaucoup, on se fait des notes tous les soirs. Vous savez, on est encore,
oh là là.
On commence la tournée et on arrive effectivement à Bruxelles avec beaucoup d'envie et d'entrain. Mais on travaille chaque soir, on se fait des notes, on travaille, on arrive avant pour évidemment faire des réglages. Voilà,
on fignole.
Ouais, ouais, c'est très important. C'est très important pour nous que chaque représentation soit différente, que chaque représentation soit fraîche, nouvelle, et que le spectateur ait quand même cette impression de vivre un moment unique.
En tout cas, votre enthousiasme est très communicatif et on viendra vous
Merci.
Voir donc, d'ici le 11
avec
février.
Grand plaisir.
Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir Thierry Lopez.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Au revoir. Et voilà, abracadabra, et on passe maintenant donc à notre champion du monde de magie. Et donc il vient pour le festival Vive la magie au centre culturel d'Auderghem le 17 et le 18 février. Il s'appelle Atem. Et puis on aura aussi Gérard Souchet qui est aussi magicien et puis qui est le producteur de ce festival. Bonjour Gérard Souchet.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, vous voyez, c'est magique, mon matériel n'a pas déclenché, je ne sais pas, c'est votre influence, c'est vous.
C'est peut-être les premiers effets de l'art magique qui rayonnent sur vos appareils électroniques. Peut-être qu'on est peut-être encore à une époque où la magie interfère sur beaucoup d'éléments autour de nous.
On ne connaît pas encore tout.
Non,
on ne sait
non,
pas
non.
encore tout. Donc vous venez donc comme producteur et comme magicien.
Oui.
Enfin, je ne sais pas si vous serez sur scène.
Non, je ne suis pas sur scène. Je l'ai été au tout début du festival, il y a 16 ans maintenant. Mais la production de travailler dans 22 villes, organiser le plus grand festival de magie en Europe, vous prend un petit peu de votre temps quand même, pour dire les choses. Et du coup, je ne suis plus sur scène, mais je suis plutôt en arrière-scène, caché dans le noir. Mais ça n'empêche pas d'être bien présent.
D'ailleurs, il y a beaucoup de choses cachées dans le noir en magie.
Ah, sauf cette année.
C'est vrai.
Je vais tout à l'heure vous expliquer pourquoi.
D'accord. En tout cas, vous venez pour le festival Vive la magie qui se déroulera
le 17
et le
18.
Le samedi et le dimanche février au centre culturel d'Auderghem.
Exactement.
À des horaires différents, donc trois fois, donc trois horaires différents.
Voilà, c'est le ça. Samedi on joue deux fois, 17h, 20h30 et le dimanche à 14h. Et en plus, il y a aussi d'autres ateliers pour apprendre la magie, qu'on soit enfant, ado ou adulte.
Voilà, et vous êtes venu avec Atem Chukin, qui est un des 16, c'est ça ?
Un des 16 artistes présents sur scène. Et pas des
c'est
moindres,
ça.
Car
puisque
Artem est champion du monde de magie.
C'est ça. Est-ce que vous avez une coupe de champion? Vous avez reçu... did you receive...
I received World Cup in Quebec. Yeah, I was happy that Gérard and Monique Souchet, they saw my act during the competition in Canada.
Yeah, exactly.
And why did you want, do you think, what was...
It's a good question. I don't know why they give me... yeah. Well, I don't know. Maybe it's
something very new. Maybe
it's difficult to say that it was new because, I use in my act the cards and the balls, and so
that's
regular
classic
style, the magie. But maybe I give my interpretation. Maybe I give my feeling and relationship with this object, and that's why the jury. Feel that's maybe the unique way.
A question of emotion.
question maybe of emotion and relationship. Yeah, that's true. So because I try to feel that the object with which I am walking on stage, it's my partner, like in the drama theater. So
I have to say that you have a very special regard.
Regard.
Yes, your eyes and you look very deep.
Je suis d'accord. En fait, Artem n'est pas un magicien, c'est un artiste. En fait, pour moi, c'est une grosse différence. C'est que le magicien est cantonné à la technique, à la maîtrise de son art, alors qu'un artiste maîtrise tous les arts. En fait, et Artem est à la fois magicien, mais aussi mime, à la fois comédien, interprète. Il a le sens du timing, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis surtout, il a un personnage absolument dans un spectacle avec Golden Magic. C'est le nom du spectacle, de la comédie magicale qu'on présentera à Oudergem. C'est la première fois qu'on met, je crois, autant d'effets magiques en 1h45. Mais on a l'impression, étrangement, qu'il n'y en a pas beaucoup parce que tout est cohérent, tout est logique. Tout s'imbrique comme un puzzle, un petit peu. Tout s'additionne, se complète et se renvoie, je dirais, la balle systématiquement. Ce qui fait que c'est un moment heureux. Un moment de joie partagée avec le spectateur.
De tous les âges.
De tous les âges. Ça, c'est à partir de 5 ans quand même, parce que ça dure quand même 1h45. Mais au-delà de tout ça, on a voulu, avec le metteur en scène, François Normague, eh bien, on a voulu changer les codes. On change d'ailleurs les codes. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de secrets qu'on ne voyait pas dans le noir. Mais là, le rideau reste ouvert pendant 1h45. Ce qui fait qu'on ne peut rien cacher. On ne peut rien dissimuler.
Ouais, ouais, ouais.
Et les spectateurs reste 1h45 rivé sur la scène sans se rendre compte que le temps défile, et au bout d'1h45 on se dit c'est déjà fini, alors que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble.
Artem, your audience is also from 5 to 105.
100, yes. C'est correct. I always feel that the magic is a form of art that's can be attractive for the audience with different age, with different age, and there is no, I think, age for the magic. So if the person can still have opportunity to surprise himself, wondering something, he have this still keep this feeling like a,
it's like a child.
Like a child, like a kid inside of him. I think magic, it's he will give him a...
Then for all age, then it's without speaking, you don't speak?
Yes, and
that's... You don't need to understand English or...
Yeah, that's interesting, because during the festival we have a lot of international artists.
Yes.
Yes, from this time from Switzerland, Spain, Japan. And some of them, they didn't speak. We totally understand.
Of course.
Yeah, and the feeling and the cultural aspects of the person, because some of them very unique and they are so different. So it's
also interesting for you then to see the concurrence.
I think I feel we don't, you know, it's interesting because we don't feel ourselves a concurrence, because it's not a competition. I feel it's like my family. Maybe it's for the, but it's not even, it's n- I can say it's for the short period, it's for the long, because many of the artists with whom we performed during the festival Vive la Magie, it's a family for a short period, but then it's friends for a long time. And it's every time the artist performing, we are watching from the backside, and we discover the signal. But sometimes even we didn't know, and sometimes we realized, oh, he's a genius, when we realize the secrets, you know. And in somehow we also learn, and we share backstage the ideas. It's a great time also for the artists.
Alors, quelques grands moments de ce festival,
Oui, mais il y en a plein, mais je pense notamment à Tomonori Kurokawa, qui est absolument brillantissime, un artiste japonais, comme son nom l'indique, et qui amène une délicatesse, une minutie, une précision, et puis un univers extrêmement poétique dans le spectacle. Je pense aussi à Hector Mancha, qui sera présent avec nous, qui a eu aussi le Grand Prix de championnat du monde. Donc ça, c'est... Il faut savoir que tous les trois ans, les magiciens du monde entier se réunissent dans ce qu'on appelle la FISM, la Fédération Internationale des Sociétés Magiques, et élisent le meilleur d'entre eux. Donc Artem l'a été, et Hector Mancha l'a été également.